Il est solide comme un chêne, souple comme un roseau, frais comme la rosée, généreux comme un bougainvillier. Vous rougissez, bonjour Alain Baraton.
Oui, souple comme un roseau, j'ai quelques doutes.
Mais si, vous nous prêtez votre main verte pour résoudre tous nos soucis avec les plantes. Et l'on commence par la question de l'une de nos auditrices, Mireille. Les plantations de ma copropriété vont être arrachées. Il y a un cèdre, trois oliviers, beaucoup d'arbustes corêtres, des forsythiens, car elles se trouvent hélas au-dessus d'un parking dont on doit refaire l'étanchéité. Ces végétaux peuvent-ils être récupérés pour être replantés, Alain ?
Vous imaginez si au-dessus de ce parking, pour l'étanchéité, il y avait une piscine, un monument historique, un immeuble, on va tout raser. C'est inconcevable aujourd'hui que pour refaire l'étanchéité, on ne tienne pas compte de la végétation. Il y a quand même de grands architectes en France, je pense aux gens comme Villemotte, ils sont capables, eux, de l'intérieur, de faire de l'étanchéité. Donc, mais bon, ne râlons pas ce matin, soyons donc positifs. Oui, il est possible de déplacer les plantes pour une raison simple. Elles ont forcément poussé sur un espace modeste, réduit et les racines sont généralement concentrées non loin du tronc. Attendons l'automne, il est possible de déplacer les végétaux, de refaire l'étanchéité, vu qu'apparemment les gens qui sont en charge de ce travail sont incompétents pour le faire de manière intelligente et ensuite de les replanter.
Ah, vous êtes en colère contre eux.
Mais non, pas
en colère,
c'est
votre coup de gueule.
Il faut se souvenir que les végétaux sont des êtres vivants et de temps en temps, il faut se donner les moyens. Au-dessus, c'est aussi important qu'en dessous. Ce petit jardin ne paye peut-être pas de mine, mais il permet à des gens qui ne partiront pas en vacances de profiter.
D'avoir un peu de
verre. Eh ben, c'est important.
Absolument. Jean-Marie, maintenant, il nous écrit « Je régale chaque année ma famille avec des fleurs d'acacia que je récolte et dont je fais des beignets. J'ai appris qu'elles étaient toxiques, contrairement à celles du robinier. Comment les distinguer ?»
Je vais faire moderne. Il y a beaucoup de fake news. Ah. Cet accent extraordinaire.
Des infox,
alors,
sinon.
Oui, tout à fait. Alors, on va faire très simple. L'acacia, c'est aujourd'hui le robinier. On appelle l'acacia, le véritable nom de l'acacia, c'est robinier faux acacia. Pour être encore plus complexe, le véritable acacia, c'est le mimosa. Vous savez, ce bouquet de fleurs jaunes que vous adorez au sortir de l'hiver. Donc, il n'y a pas de toxicité entre les fleurs d'acacia et les fleurs de robinier, vu que on désigne exactement la même plante. Non, ce que l'on confond peut-être, ce sont avec les fleurs de tilleul, car oui, les fleurs de tilleul, pas pour l'homme, mais pour les abeilles, peuvent être parfois toxiques, il faut le savoir. Et oui, elles arrivent, elles sont enivrées par le nectar et elles peuvent en mourir. Mais ça concerne le tilleul et non pas l'acacia. Les fleurs d'acacia sont le miel d'acacia merveille.
Divin, c'est divin. Sylvie, elle vous pose deux questions. On va commencer par la première. Est-ce qu'il y a beaucoup de pierres précieuses qui sont aussi des noms de fleurs?
C'est une colle. Eh bien oui, j'ai cherché, je n'en ai pas trouvé. Mais par contre, j'ai trouvé une plante qui, elle, a des noms de bijoux, ou plutôt de bijoux de famille. Je pense au Gomphocarpus physocarpus. En fait, il produit des capsules vertes hérissées de poils. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, bravo.
Alors oui, donc
7h45, on est bien.
Et on les appelle vraiment les bijoux de famille. Mais j'étais certain de votre réaction. Ouais. L'occasion pour moi de vous parler également d'une autre plante qui produit elle aussi des fruits un peu particuliers, qui vit dans les régions désertiques, que l'on connaît sous le nom de roustonnier ou mieux. Arbre à couilles, ça existe.
Ah bah c'est du Brassens. Deuxième question de Sylvie, on passe à l'autre question. Hein. Qu'est-ce que l'autofécondation d'un point de vue horticole, si on peut rester dans les clous du CSA?
Eh bien, on va le rester.
Okay.
Il faut savoir que les fleurs possèdent des éléments mâles et des éléments femelles. De temps en temps, certains arbres dits dioïques ne produisent que des fleurs mâles ou que des fleurs femelles. Il faut deux pieds distincts. Donc il faut, comme pour le kiwi généralement ou le ginkgo biloba, plusieurs végétaux pour assurer la fécondation. Un pommier, par exemple, est une plante qui produit sur la même fleur les éléments mâles et femelles. Je vous rappelle que, en fait, il faut que le pistil, que le pollen qui est produit par le pistil se soit déposé sur l'étamine qui est l'élément mâle pour qu'il y ait fécondation. L'autofécondation, c'est tout simplement quand une fleur, quand une plante n'a pas besoin de copain ou de copine pour se multiplier. C'est fort heureusement la grande majorité des végétaux, mais la pollinisation dite croisée est toujours meilleure. Car lorsqu'on se reproduit toujours entre soi, au bout d'un moment, il peut y avoir dégradation de la qualité.
Du patrimoine génétique, ouais.
Voilà, mais tout à fait. Donc, il est quand même mieux, la pollinisation croisée est toujours mieux que l'autofécondation.
Joël, il nous écrit pour nous dire cette année de nombreuses pousses jaillissent du pied d'un marronnier, d'un tilleul et d'un tulipier de Virginie. Les trois ont au moins 50 ans. Par-delà la symbolique, que faire?
Je vais parler pour le nord de la Loire. Il a fait chaud au sud, au nord de la Loire, il ne cesse de pleuvoir. Ouais. Les arbres n'ont jamais été aussi beaux. Regardez, c'est bien, vrai. Ils sont verts, il y a du volume. Mais ils ont tellement envie de s'exprimer qu'ils font même des rejets. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se multiplier par la base. Il est normal que les marronniers, tilleuls et autres végétaux produisent des rejets. Attention à ne pas confondre le rejet qui part de la base du végétal avec le rejet qui part du tronc et qui lui peut pourra petit à petit montrer qu'il s'agit en fait d'une descente de cime. Donc les rejets à la base du végétal sont tout à fait normaux.
Bernard, maintenant, il se demande si tous les lauriers sauce, reconnaissables à l'odeur et aux feuilles, sont comestibles. Il a entendu dire que certains seraient du poison. Est-ce que c'est vrai?
Oui, là encore, fake news.
Fake news encore.
Oui, donc... ben oui. En fait, le laurier sauce, il n'y a aucun problème. Mais attention, la feuille, vous ne la mangez pas. Vous la faites cuire, vous goûtez le bouillon, mais pas la feuille. Vous confondez avec, par exemple, le laurier rose.
Oui.
Le laurier rose, lui, est toxique. Effectivement, les autres lauriers le sont, oui. Mais le laurier sauce, celui que l'on reconnaît les yeux fermés simplement à l'odeur, lui, on peut y aller tranquille. Il n'y a pas de problème.
On le cuisine, mais on ne le mange pas.
Oui, tout à fait.
La question de Jean-Michel, maintenant. Un figuier d'une vingtaine d'années possède une branche couverte de champignons blancs. Gratter le bois suffit-il pour s'en débarrasser?
Je vais essayer d'être simple. Quand il y a sur du bois un champignon, cela correspond à la fructification d'un réseau de mycélium dans le bois. Si vous supprimez la partie visible de l'iceberg, si vous supprimez le champignon, vous ne guérirez pas le végétal. Donc gratter ne servira à rien. Il faut malheureusement couper le végétal, car le champignon se développe sur le bois en décomposition et favorise la décomposition du bois. Il n'y a pas à tergiverser, on coupe la branche.
J'ai une petite question surprise complémentaire,
oui,
Alain.
Oui.
C'est Corinne qui vous demande quand est-ce qu'il faut replanter les fuchsias. Est-ce que vous avez une réponse à
Alors,
ça?
Alors, on ne les replante pas, mais on les rempote, parce
on
que
les
le
rempote,
fuchsia
oui,
est une plante qui est originaire des régions un peu chaudes. Eh bien, on le rempotera quand la plante aura cessé de fleurir. Ce qui signifie, pour être clair, que un, en ce moment, ils sont en fleurs, on attend, il fait chaud, on attend, donc on rempote les fuchsias prioritairement quand ils ont cessé de fleurir, à l'automne, et jamais quand il fait chaud, et juste après le rempotage, on arrose beaucoup.
Un conseil lecture pour terminer,
Un bouquin que j'ai beaucoup aimé, Faites vos graines, hein. Bah oui, c'est de Blaise Pascal, c'est publié chez Larousse, une belle occasion d'occuper les enfants pendant les vacances, et de dire que finalement les graines de courgettes, de melon ou de tomates, au lieu de les jeter quand vous avez fait la cuisine, gardez-les, suivez les conseils, et l'an prochain, vous ferez vous-même vos propres semences. C'est intelligent. Faites vos graines, de Blaise Leclerc, aux éditions Larousse.
Merci Alain Baraton. La main verte revient demain, même heure.
Avec joie.
À demain.